Simpson Club, l'émission qui débat du ciné et des séries. Salut à tous et bienvenue dans le Wilson Club, l'émission qui débat du ciné et des séries. Aujourd'hui, pour cet épisode enregistré en mars 2016, nous plongeons dans une étrange uchronie. Alors, je m'appelle Ben et je suis en compagnie de Matt. Salut Matt, est-ce que ça va bien aujourd'hui ?
Salut Ben, ça coule.
Pour ce numéro, nous allons parler de séries, encore une fois, et nous avons choisi de vous parler de la série The Man in the High Castle. Alors, sans tarder, nous allons directement attaquer le sujet et embarquer pour les USA colonisés par les nazis. The Man in the High Castle est une série d'Amazon sortie en 10 épisodes en novembre 2015. Alors, cette uchronie décrit un monde où les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique est désormais partagée entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie. La série commence en 1962 et on va suivre d'une part des personnages de la côte Est des USA, dont un personnage de résistant, dont la mission est de transporter un précieux film dans la zone neutre située entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie. Et d'autre part, on va suivre des personnages de la côte ouest qui vont également être mêlés à ces mystérieux films. Et tout ça sur fond de rumeurs persistantes sur la santé déclinante du Führer et une tension grandissante entre nazis et japonais. The Man in the High Castle est l'adaptation du roman Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick, écrit en 1962. Cette série est produite par le grand Ridley Scott, qui avait déjà adapté les écrits de Philip K. Dick, puisque son film Blade Runner était l'adaptation des androïdes reptiles de moutons électriques, qui avait été écrit en 1965. Alors, si cette version produite par Ridley Scott reprend l'idée de base de Philip K. Dick, elle s'appuie en revanche sur une modification importante. Les mystérieux documents qui présentent un monde alternatif au sein même de l'histoire, donc une forme d'uchronie dans l'uchronie, sont véhiculés par un livre dans le bouquin de Philip K. Dick, mais dans la série, ils sont véhiculés par des bandes de films qui sont noir et blanc. Alors, cette différence n'est pas totalement illogique, étant donné que la série est un objet filmé, et donc ça semble logique, les documents soient également des objets filmés, alors que dans le bouquin, on était en train de lire un livre, l'élément mystérieux dans le livre, c'était également un livre. Et évidemment, la série a également ajouté, pour les besoins scénaristiques, des personnages qui ne sont pas présents dans le bouquin.
What is this?
Newsreel film. It shows us winning the war.
But we didn't win the war.
Alors voilà cette série qui repose sur le principe de l'uchronie suscite une étrange réaction de la part du spectateur. Qu'en as-tu pensé, Matt?
Alors j'ai trouvé que c'était une série qui était très fascinante, avec un certain suspense. J'ai beaucoup aimé la. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle photo pour une série très bluffant de réalisme.
C'est probablement lié au talent reconnu de Ridley Scott, qui est un maniaque de la beauté de la photographie dans tous ses films. Probablement que la qualité de la série provient de Ridley Scott. Et il y a également, je trouve, un soin du détail. notamment la côte ouest qui se passe à San Francisco. On a un San Francisco qui est complètement transformé, qui a été japonisé avec des petites échoppes qui vendent les produits japonais, des lanternes. Toute la ville a été, alors je ne sais pas comment ils ont fait ça, c'est les moyens quand même sont relativement importants pour arriver à ainsi transformer une ville probablement beaucoup en image de synthèse, mais en tout cas le résultat est vraiment très beau.
Ouais, très réaliste.
Alors il y a un effet, alors chez moi il y a eu un effet de malaise. Je pense que c'est lié au fait que l'Allemagne nazie incarne quand même une des plus grandes horreurs que le XXe siècle a produit. Et de voir ces nazis pavaner comme ça sur le sol américain, ouais, un effet malaise. Surtout que on s'attache à certains personnages du côté nazi notamment, qui sont intéressants. Je trouve que chez le spectateur, cette série provoque des sentiments assez étranges, assez partagés, et même en même temps des sentiments de presque de frayeur d'imaginer que Hitler est toujours vivant et que c'est vertigineux. Et je pense notamment, bon, il n'y en a peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais notamment pour les survivants de l'Holocauste. C'est probable que c'est presque une série qui serait irregardable pour ces personnes-là, tant rien que l'idée que ça puisse être possible est terrible.
C'est vrai que c'est limite discutable, elle est assez sombre, mais en fait, d'un thème peut faire émerger ouais, des thématiques et des choses assez complexes et intéressantes, quoi. Un peu de la manière à Kigami d'un scénario totalement révoltant d'arriver à sortir une intensité émotionnelle incroyable.
Juste pour préciser pour les personnes qui n'auraient peut-être pas vu Ikigami, c'est un film qui était adapté d'un manga et dont l'histoire concerne un pays imaginaire dans lequel chaque enfant reçoit dès son entrée à l'école un vaccin. Et parmi ces enfants, 1 sur 1000 reçoit un vaccin qui a comme conséquence de provoquer la mort entre 18 et 24 ans. Et le but de cette action étant de donner la conscience aux adultes de la valeur de la vie. Donc effectivement, un scénario extrêmement tragique dans lequel le film arrive à créer une tension émotionnelle assez époustouflante.
Now we have a better world. There are those who seek to drag us all backward. We have arrested suspects smuggling subversive films.
That film shows the world not as it could be, but as it is.
It has to be about something more. I need answers.
Bon, alors peut-être si on parle un peu des personnages, bon, moi qui ai un attachement assez grand pour le Japon. Effectivement, presque les personnages les plus attachants sont du côté japonais, on va dire, notamment les dirigeants japonais qui véhiculent un peu l'âme de ce pays, sont assez attachants.
Les personnages, j'ai été impressionné par la qualité d'écriture des personnages. Tous les personnages sont vraiment très bien écrits. Il y a vraiment que ce soit pas les Américains, mais les Allemands, avec cet aspect, tu vois, cette manière d'échanger les rôles d'un peuple à un autre, quoi. Tu vois, les deux bombes qu'ont lâchées les Américains, il y avait aussi un traumatisme du côté des Américains. Et ça, on le ressent assez bien, en fait. C'est assez bien transposé chez les Japonais, en fait. Ils sont un peu un peuple déclinant, quoi. Se sont reposés sur leur laurier, il y a un peu cet aspect. Ouais.
Oui, et puis ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le fait qu'il ait perdu la guerre, qu'il s'est à ce point-là investi dans les nouvelles technologies et qu'il a été le moteur économique pour plein d'aspects. On voit que du fait qu'ils ont gagné la guerre et qu'ils sont devenus des colons de l'Amérique, et Et puis cet aspect technologique, eh ben, ils ne l'ont pas. On voit qu'ils cultivent alors, ce que le Japon fait quand même aujourd'hui. Hein, ils sont aussi tournés vers la tradition. Mais là, on a l'impression que ces colons de Japonais ne vivent que dans la tradition. Et ils n'ont pas du tout été vers ce côté de développer les nouvelles technologies. Et au contraire, c'est les nazis qui, eux, possède les avions les plus rapides, etc.
Par contre, on sent le côté, on sent chez le côté japonais dans certains personnages la culpabilité d'occuper en fait les Américains. Tu sens dans les personnages que ils font partie du système de comment ça s'appelle l'État japonais du Pacifique, je sais plus quoi. On sent par moments des remords d'avoir un peu fait disparaître la culture américaine, quoi. Mais le fait d'avoir comme ça changé les faits réels développe aussi justement chez ces personnages d'autres manières d'entrevoir le monde. Je trouve ça intéressant en fait de prendre des personnages d'une époque, de changer les événements et d'imaginer comment ils se seraient comportés avec ces événements différents.
C'est probablement l'idée de Philip K. Dick à la base de son livre, pour pouvoir voir quelque chose sous un autre angle.
Il y a presque un aspect un peu d'étude sociologique un peu.
Oui, et puis sinon, du côté du final, le final de la série, c'est là qu'on voit que toute la trame est vraiment très bien écrite. Puisque on a l'impression que dans les quelques derniers épisodes, la vie de chacun des personnages est en jeu. Ils sont tous concernés par le final de cette intrigue. Et honnêtement, j'étais presque incapable de savoir qui allait pouvoir survivre. Je ne sais plus, il doit y avoir presque une dizaine ou une douzaine de personnages. On a l'impression que tous les personnages, dans le dernier épisode, pourraient mourir. Alors évidemment, on ne va pas vous dévoiler qui meurt, mais ils sont tous en danger et ça se tient. Le scénario est suffisamment bien construit pour qu'on soit tendu dans ce final qui est assez magistral, je trouve. C'est une des séries les plus intéressantes que j'ai pu voir ces derniers temps.
Ouais, j'ai été vraiment bluffé par cette série. J'ai peut-être un bémol, c'est que le nom de Obergruppenführer est peut-être un peu long à mon goût.
Oui, c'est vrai que plus ils sont gradés, plus leur nom est long et compliqué à retenir. Et c'est vrai que quand tu les écoutes se présenter, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit sourire. Je suis d'accord avec toi. Bon, on va arrêter là notre petite review, mais bon, qu'on est d'accord, c'est une série qu'on vous recommande très très chaudement. Elle est vraiment très intéressante. Tu es d'accord?
Tout à fait, ouais.
Take this.
What is this?
It's a new film.
There's something different about this one.
Different how?
Donc on va passer maintenant à la dernière partie où on vous donne quelques petits conseils de films à voir en lien avec le thème traité du jour. Alors aujourd'hui, c'est plus ou moins des liens assez indirects que je vous propose. Il y a notamment, je ne sais pas si tu t'en souviens, Matt, le film Captain Sky avec Jude Law, qui se passe aussi dans un environnement un peu uchronique, plus steampunk. Et puis sinon, alors là, si vous voulez ensuite vous changer les idées et puis voir le truc le plus débile qui a été, l'un des trucs les plus débiles qui a été tourné sur les nazis, et c'est également une uchronie, ça s'appelle Iron Sky. C'est l'idée complètement baroque que les Allemands se sont réfugiés sur la face cachée de la Lune après leur défaite et qu'ils ont construit un immense blocos et qu'ils décident de réinvahir la Terre. Puis ce film qui a eu son petit succès a également une suite en préparation où cette fois les nazis seront réfugiés au centre de la Terre et ils se sont mis à dompter des dinosaures. Voilà, un truc complètement déjanté qu'il faut regarder le cerveau. Bien éteint, mais bon, c'est quelque chose d'assez amusant à regarder.
C'est quand même une bonne partie de rigolade.
Voilà, donc on va passer à la dernière partie de l'émission et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. On a parlé aujourd'hui de la série The Man in the High Castle. On espère que ça vous a intéressé et donné envie de le regarder. Alors avant de nous quitter, dis-moi Matt, où est-ce que l'on peut te retrouver si les auditeurs souhaitent te contacter?
Alors sur Twitter, @matt_script.
Et pour ma part, c'est également sur Twitter, @benlamba. Vous pouvez retrouver nos émissions sur SoundCloud, notamment la dernière qui traite de la série, également d'une série intitulée The Expanse. Et sinon, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.